fond, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Dutrisac.
Avec Alexandre Dubé pour faire le tour des nouvelles. Alex, bonjour.
Salut Benoît.
Eh boy, les chiffres sont... c'est décourageant.
Mais faut pas se décourager, Benoît. Faut retrouver un peu l'espèce de solidarité qu'on avait le printemps dernier, où on a été plusieurs Québécois à se retrousser les manches, puis à dire, regarde, en gang, là, on va être capable si on fait chacun notre petite part, chacun notre petit bout. C'est sûr que, tu sais, le point de presse de 17h30 hier, quand on a appris que le Grand Montréal, que la capitale nationale, que Chaudière-Appalaches basculait dans le rouge, c'est sûr que ça nous frappe, parce que là, on a l'impression de revenir en arrière, de revivre des choses très, très, très difficiles qu'on a vécues le printemps dernier, lors de la première vague de la pandémie. Là où, effectivement, c'est vrai que les chiffres ne sont pas encore très reluisants aujourd'hui, 799 cas, donc près de 800. Les décès sont en hausse. Quand on les décortique, il y en a eu 7, 2 dans les 24 dernières heures et 5 qui remontent dans la période du 22 au 27 septembre. Puis là où ça explose, c'est les hospitalisations. Là, on est à plus 35, 4 en augmentation aux soins intensifs, et on est sur un rythme de au-delà de 26 000 tests, encore une fois. On surveille le nombre de cas par million d'habitants. On est à 80,8 cas par million d'habitants. C'est encore très haut à Montréal, à Montérégie et à Québec, où on bat encore un record là, à Québec avec 169 nouveaux cas. C'est aussi le retour, Benoît, des points de presse du premier ministre Legault à 13 heures. Il y en aura un aujourd'hui. Certains ont critiqué peut-être le nombre de peu élevé de questions là, dans le point de presse d'hier à 17h30. Je suis persuadé qu'on aura l'occasion d'aller peut-être un peu plus en profondeur à 13h cet après-midi. Écoute, bref rappel de ce qui a été annoncé pour ce qui est des zones qui sont passées au rouge. Donc, la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, on a un délai jusqu'à jeudi. Pour appliquer ces mesures-là qui seront effectives pendant 28 jours. Les rassemblements dans les foyers, c'est terminé. Seules les personnes qui vivent à la même adresse peuvent se retrouver au même domicile. Ceux qui sont seuls peuvent recevoir une personne d'une autre adresse, mais c'est une personne à la fois. Mmh. Il y a des exceptions pour les personnes qui sont vulnérables. Là où ça fait mal, puis que les réactions sont très, très vives encore aujourd'hui, c'est au niveau des bars, des salles à manger, des restaurants, des cinémas, des musées, des salles de spectacle, tout ça va fermer à compter donc de mercredi soir minuit. Et ils sont là, les grands questionnements, à savoir, entre autres, de l'industrie des bars, de la restauration. Est-ce qu'on paye pour ceux qui n'ont pas respecté les règles? Est-ce qu'on fait payer la grande majorité pour la minorité qui n'a pas respecté les règles et qui sont à l'origine de certaines éclosions? Je pense au bar Le Kirouac à Québec notamment, là, qui avait fait les manchettes. À l'extérieur, les rassemblements sans distanciation de 2 mètres sont interdits aussi. Et là, on préserve les écoles, les commerces qui demeurent ouverts, de même aussi que les fameuses entreprises de soins personnels, comme les salons de coiffure, les gyms aussi demeurent ouverts. Et là, les déplacements entre les régions, parce que ça aussi, c'était un point d'interrogation par rapport à ce qu'on avait vécu le printemps dernier, avec les barrages policiers. Là, on n'en est pas là pour l'instant. Les déplacements entre régions sont déconseillés, mais ils ne sont pas interdits pour l'instant.
Il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Là. Les restaurants où, tu sais, si je parlais de ça ce matin avec Mario et Pierre, ouais. Tu sais, on aurait pu limiter des tables de 4 personnes. Tu sais, pas de groupe, pas rien. Fini les groupes. Ou des 2 personnes. Ouais. Tu sais, je sais pas. Il me semble leur donner une chance de passer à travers. Parce que là, tu dis, pourquoi on ferme les restaurants? Les bars, ça, je comprends ça, là. La fonction du bar, c'est de socialiser, c'est de bouger. Fait que c'est pas là. Mais un restaurant, tu peux y aller avec ta blonde, ton chum, tu t'assois, tu manges tes enfants, tu repars, tu mets ton masque. Il me semble que ça peut se faire de façon sécuritaire. Mais les autres.
C'est un contexte qui est différent. Puis tu sais, faut pas oublier là qu'il y a des restaurateurs qui ont investi des milliers de dollars dans toutes sortes d'affaires, dans du plexiglas pour distancier les tables. Moi, j'ai parlé avec plusieurs restaurateurs là, au fil des semaines. Puis tu sais, la salle à manger, on aura beau dire, ah oui, mais OK, ils peuvent continuer de faire du take-out ou de la livraison de un. La livraison, il y a des coûts reliés à ça.
Ben
le take-out, c'est pas tous les restaurateurs qui sont équipés pour le faire. Certains vont migrer vers ça, c'est clair, mais les revenus en salle à manger, ça représente quand même une partie importante de leur profit qui était déjà diminué en termes de distanciation physique, parce qu'on n'avait pas le choix de rentrer moins de tables dans l'espace. Tu sais, il y a des restaurants, exemple, qui auraient pu rentrer avant une centaine de tables. Mais là, avec la distanciation physique, tu peux être sûr qu'il y en avait pas mal moins.
Non, alors, mais en même temps, Alex, tu sais, centaines de tables, ça veut pas dire qu'elles étaient toutes occupées tout le temps. Fait que, tu sais, si tu rétablis la fréquentation étalée sur une semaine, au lieu d'avoir ça jeudi, vendredi, samedi, ben, peut-être que tu peux arriver à survivre. Mais là, c'est fermé, c'est zéro, c'est pas pantoute.
Oui, là, c'est final bâton, là. Puis malheureusement, il y a plusieurs restaurateurs, plusieurs commerçants qui se relèveront pas de ça, on va se dire les vrais
sûrement, affaires. Sûrement. La mairesse de Montréal a fait le point ce matin.
Ouais, elle a commenté le changement de couleur, effectivement, de la région et du Grand Montréal. Puis le point qui a retenu vraiment l'attention dans la conférence de presse de ce matin de la mairesse, c'était les manifestations. Les manifestants anti-masques ne sont vraiment pas les bienvenus à Montréal. On sait que le gouvernement Legault a annoncé des modifications à ce qu'on va tolérer dans les manifs. Donc, ceux et celles qui vont participer à des manifs au Québec vont devoir porter un couvre-visage, y compris les gens qui manifestent contre le couvre-visage. Ça va être assez particulier. Il risque d'y avoir des contestations. Ça semble s'organiser déjà. Et là, ben, la mairesse a été très, très claire. A dit... Elle ne peut pas accepter des manifestants anti-masques qui viennent à Montréal. Il y en a certains qui voudraient venir là, dans le coin de Saint-Michel, Parc Extension, où déjà les gens sont durement touchés. Et elle a invité les manifestants à aller dans un champ de patates. C'est assez clair, ça donne le ton pour la suite des choses. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Un champ de patates, toi.
Oui, un champ de patates. Elle n'a pas dit dans quel arrondissement, mais ça reste à voir. Tu sais, dans les derniers mois, le SPVM avait été très critiqué, montré du doigt parce que les policiers n'étaient pas intervenus dans les manifestations anti-masques. Ça avait été la même affaire à Québec en juillet où les policiers du SPVQ avaient évité d'intervenir. Et dans les deux cas, les corps policiers avaient jugé que ça aurait été plus risqué finalement d'intervenir que de pas le faire. Maintenant, ces manifestations-là regroupent souvent plusieurs causes, entre guillemets, les anti-masques, ceux qui adhèrent au mouvement QAnon, des anti-5G. Écoute, ça ratisse assez large. Est-ce qu'on risque d'en voir au cours des prochains jours? Fort probablement, mais on verra bien. Une chose est sûre, que la mairesse de Montréal a déjà annoncé ses couleurs là-dessus.
Bon, ben c'est la mairesse qui envoie tout le monde dans les patates, ça c'est notre affaire. Là, les policiers là qui ont pris la parole là, pour expliquer pourquoi ils ne sont pas intervenus, par exemple, là, au Tam Tam.
Oui, parce que ça avait fait jaser la mairesse aussi, d'ailleurs. Valérie Plante avait dénoncé là ce rassemblement-là, puis on s'en parlait nous autres hier. Là, le gouvernement, on sait, veut serrer la vis aux récalcitrants. On va attendre de voir cette semaine les détails avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Mais là, les policiers, eux, disent qu'ils ne sont pas assez outillés pour le faire, ils sont pas assez outillés pour intervenir. Puis je te donne un exemple. Le décret qui leur permet, depuis deux semaines, d'intervenir dans les bars pour le non-respect de la distanciation, pour le port du masque, n'aurait pas assez de dents, selon plusieurs. Et là, le processus pour délivrer le constat d'infraction est trop lourd aussi. Et résultat, ben, c'est souvent que les interventions se soldent pour la plupart du temps avec des avertissements. On se demande maintenant comment le gouvernement va réussir un tour de force pour faire respecter l'obligation de porter un masque dans les manifs. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Tous les intervenants du milieu policier, les intervenants du milieu judiciaire s'entendent aussi pour dire qu'une sanction remise en main propre, ça a un effet un petit peu plus dissuasif. Tu sais, quand tu reçois une étiquette de 400, 500 ou même 1000, voire quelques milliers de dollars, si c'est une récidive ou si c'est un comportement déviant qui est pas corrigé là-dessus, je te dirais que ça risque de faire pas mal plus mal.
Puis, non, mais attends, c'est parce que il y a un policier qui a pris la parole, Alex, qui a dit que ça prend 7 étapes avant de faire le constat d'infraction.
Oui, on constate... Après ça, on avertit, on revient. Alors, écoute, ça finit plus de finir, là, je te dis. Puis c'est ce qu'on a vu au Lordia, à Laval, tu te souviens?
Oui.
Il y a une semaine, là, l'établissement qui avait été blâmé pour le non-respect des mesures sanitaires, où on voyait des gens danser, festoyer, près les uns des autres, sans masque, en pleine pandémie, en pleine deuxième vague. C'était un reportage du bureau d'enquête. 200 personnes dans l'établissement, il n'y a pas de problème. On apprend, effectivement, que les policiers de Laval se sont rendus sur place hier et ils ont constaté que l'établissement était fermé. Le restaurant prévoyait rouvrir ses portes à l'occasion d'une soirée musicale le 3 octobre, hein, c'est pas pire, mais ça c'était avant que le gouvernement Legault ordonne hier la fermeture des salles à manger de tous les restaurants du Grand Montréal, mais tu le soulignais, les 7 étapes avant de donner un constat d'infraction avec des gens qui, vraiment, c'est un comportement, je m'excuse, là, mais c'est un comportement juvénile, là, tu sais, tu te fais avertir par un policier, puis là, là il s'en va, puis là, tu commences, là, donc, ils ont quel âge, là, ces gens-là?
Donne-y, là, la contravention, devant c'est Tinami, puis il dit, là, mon homme, c'est 400 piastres, là, à toi. Y en a-tu d'autres qui en veulent ou vous débarrassez le plancher? Il me semble que, en tout cas, bref, moi, je connais rien. Avant qu'on se quitte, un mot sur la mort de cette femme autochtone. Je pense que c'est à Joliette.
Et ça, c'est important de revenir sur cette situation-là, parce que là, le ministère des Affaires autochtones a révélé qu'il y avait une enquête en cours, une enquête du coroner, pour éclaircir les circonstances du décès de cette femme-là, Atikamekw, à l'hôpital de Joliette. Ça commence jeudi passé. La femme de 37 ans, Joyce Etchakwan, s'est rendue à l'hôpital de Joliette. Elle avait des douleurs à l'estomac, semble-t-il. Mais là, quelques jours plus tard, lundi, elle fait une vidéo en direct sur Facebook. À ce moment-là, son entourage voit ça. On peut l'entendre crier à l'aide en Atikamekw et dire avoir reçu trop de médicaments. Ce qui choque énormément en ce moment, c'est les propos tenus par deux membres du personnel, des propos que je ne répéterai pas, Benoît, je peux carrément pas dire ça, c'est raciste, c'est vulgaire, c'est plein de préjugés, et ce sont des propos discriminatoires d'une rare violence. Et résultat, c'est finalement que cette femme-là est décédée, attachée sur sa civière. C'est une mort qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. On a vu toutes sortes de mots-clics apparaître. Et là, il y aura une vigile ce soir devant l'hôpital de Joliette, ou au moins, en tout cas, selon certains groupes réseaux sociaux, là, plusieurs centaines de personnes auraient confirmé leur présence. Mais c'est une histoire qui va continuer de faire grand bruit parce qu'elle est très, très chère.
Bon, mais Marie-Pierre m'annonce, Alexandre, qu'il y aura enquête d'un coroner sur
ce que je viens de mentionner.
Ouais, excuse-moi. Alors, ça vient d'être confirmé. Parfait. Oui. Merci, Alexandre. On se reparle demain.
Salut. Bye.